Radio Okapi.
Oh, Okapi. Le journal Pascal Masserica.
Les titres de l'actualité, le rebelle du M23 aurait progressé aujourd'hui au nord de Kiwanja après des affrontements survenus avec les FARDC dans les localités de Kaunga et de Mabenga. Pendant ces temps, la situation est redevenue calme à Goma après les manifestations contre l'agression de la RDC par le Rwanda. Suspension de la grève dans les universités et instituts supérieurs de la RDC au motif que la prochaine livraison des véhicules aux professeurs tiendra compte notamment des perturbations observées. Le rapporteur de cette association assure qu'il n'y a pas de raison de ne pas reprendre le cours. Notre invité, c'est le directeur intérimaire du Musée royal de l'Afrique centrale. Karel Vele parle du processus de restitution des œuvres d'art de la RDC qui avaient été acquises illégalement par la Belgique sous la colonisation. Ces objets sont encore au Musée royal de Tervuren. Madame, messieurs, bonsoir. Au nord, qui vous, les rebelles du M23 auraient progressé ce lundi au nord de la localité de Kiwanja après des affrontements survenus ce matin avec les FARDC à Kahunga et à Mabenga. Plusieurs sources dans la cité de Kiwanja et vers Ishasha parlent aussi d'une progression des rebelles du M23 vers le groupement de Binza. Pendant ces temps, sur le front sud, un calme précaire est toujours observé dans le groupement de Rugari à environ 40 km au nord de la ville de Goma. Explication d'Adolphine Ngoy.
C'est autour des 9h locales ce lundi que nos sources ont confirmé l'arrivée des rebelles du M23 au poste de patrouille de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN à Mabenga. C'est en plein parc national de Virunga vers les limites nord de la chefferie de Bouisha. Nos sources précisent que les militaires FARDC seraient cantonnés au niveau de la station de l'ICCN à la Ruindi mais aussi dans l'enclave de pêche de Vichumbi. Nos sources parlent aussi d'une progression des rebelles vers le groupement de Binza, nord-est de la cité de Kiwanja. Ce qui inquiète quelques habitants de cette zone, il reste toutefois difficile à l'heure qu'il est de confirmer ces informations dans la mesure où l'armée n'a pas encore communiqué à ce sujet. Sur le front sud du territoire de Rutshuru, un calme reste observé jusqu'à ce soir dans la zone située entre Rugari et Rumangabo. C'est après des détonations qui ont cessé dans la soirée d'hier dimanche dans la zone. Certaines sources civiles indiquent que l'armée maintient toujours sa position au niveau de Kibumba, au nord du territoire.
La situation qui était redevenue calme à Goma après les manifestations de la matinée jusqu'en début d'après-midi, des boutiques, magasins et des stations-service qui ont ouvert au sud de la ville. Un peu au nord-est du territoire de Nyiragongo, la population avait répondu à l'appel de la société civile qui l'invitait à une marche pacifique. Gabriel Ouamenia.
Les activités socio-économiques qui ont été paralysées dans la matinée ont repris en début d'après-midi. Une partie infime des stations-service, boutiques, magasins, bistrots ont ouvert. Mais toutes les banques et les maisons de transfert d'argent sont restées fermées. Sur les grandes artères, les engins roulants qui y circulent roulent à vive allure, les phares allumés et d'autres actives et clignotent en priorité. Sur les croisements des avenues et des grandes artères de la ville, on peut encore apercevoir quelques manifestants qui ne s'essoufflent pas du tout. Réunis dans des petits cercles, les points de mire qui dominent leur conversation restent le soutien au FARDC. Ils promettent aussi de poursuivre leurs manifestations jusqu'à la libération des zones occupées jusque-là par la rébellion du M23 soutenu par les Rwandais. L'appel à une marche pacifique lancé la semaine dernière par la société civile pour exiger l'implication de la communauté internationale à condamner fermement l'agression de la RDC par les Rwandais risque de prendre d'autres allures sur le terrain. Ce matin, des cas de dérapage ont été observés au niveau de Afiabora. Des badauds incontrôlés, munis de pierres et de bâtons, s'en prenaient à quelques affiches et effigies de quelques personnalités du pays placées sur les grandes artères, les accusant du laxisme face à l'invasion rwandaise. Goma, Gabriel Ouamenia, Radio Okapi.
Dans l'actualité, il y a également la suspension de la grève des professeurs des universités et instituts supérieurs de la RDC selon un communiqué rendu public hier dimanche ici à Kinshasa. Cette suspension de la grève est motivée par la prochaine livraison des véhicules aux professeurs en tenant compte des perturbations qui ont été observées sur le terrain à l'UPN, Université Pédagogique Nationale par exemple. Les cours ont repris timidement ce lundi selon le coordonnateur des étudiants qui a été joint par Kelly Yoka.
C'est que nous constatons
constatons ici aujourd'hui sur les sites universitaires, il y a moins de participation. Donc il y a vraiment une participation timide au niveau des auditoires. Il y a une majorité, si j'ai dit en termes des pourcentages, plus de 70% d'auditoires non occupés jusque-là. Nous demandons aux autorités d'ailleurs de publier un communiqué allant dans le sens de faire intervenir les étudiants, de venir et de croire et d'accepter que réellement il y a eu reprise des activités. C'est ce que nous comptons faire en tant que coordination aux étudiants. De s'adapter aux conditions, aux exigences de l'année académique, bien évidemment au calendrier que le ministre Excellence Moïse Ouzang Boutondo avait publié. Voilà, il y a eu vraiment reprise des activités, chers camarades. Prière de venir et de se conformer relativement à ce que l'université a prévu comme principal.
Notons que le rapporteur de l'association des professeurs a affirmé qu'il n'y a pas de raison de ne pas reprendre le cours dans les universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo. Et puis, plus de 6000 personnes ont été consultées par des spécialistes en ophtalmologie. Parmi elles, plus de 500 souffrants de la cataracte ont recouvré la vue après des interventions chirurgicales. C'était à l'issue de la 8e campagne d'ophtalmologie gratuite, soins et opérations qui se sont achevées hier dimanche après-midi à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Le ministre de la Santé publique parle d'un bilan positif. Jean-Jacques Mbungani l'a dit à Tati Mapuku.
6000 personnes consultées pour de problèmes de vue, 534 personnes ont bénéficié d'une opération qui aujourd'hui permet à ces personnes de recouvrer la vue et 2500 paires de lunettes données gratuitement. C'est une grande satisfaction. Vous savez que le chef de l'État a poussé le gouvernement à la mise en œuvre de la couverture santé universelle, ce qui veut dire l'accès aux soins de santé pour tous de manière égalitaire sans que ça impacte sur les finances. C'est également une collaboration avec des partenaires qui aujourd'hui ont été accompagnés par le personnel médical de l'hôpital général de référence. La collaboration va continuer. D'autres campagnes vont se dérouler à travers la République démocratique du Congo et c'est au ministère de la Santé de le programmer. Il y a quelques mois, nous avons également opéré plus de 300 personnes dans une autre institution de la ville province de Kinshasa dans les mêmes conditions. Nous avons la volonté d'opérer les Congolais qui souffrent de la cataracte partout, à Kinshasa et en province.
Au Tanganyika, des jeunes des Congolais accusent les ONG qui œuvrent dans ces territoires de ne pas engager la main-d'œuvre locale. Le Conseil territorial de la jeunesse du Congolo a envoyé pour cela samedi dernier un mémorandum aux responsables d'Otcha à Tanganyika. Pour en parler, retrouvons Akalemi Polemunanga.
Dans ce mémorandum, le Conseil territorial de la jeunesse constate que dans la quasi-totalité d'ONG présents à Congolo, il n'y a pas la présence de la main-d'œuvre locale. Ainsi, il exige des ONG œuvrant dans les territoires des Congolos de recruter localement au lieu de favoriser la main-d'œuvre venue d'ailleurs. Le mémo souligne que le recrutement local va permettre la pérennisation des actions, des activités faites par les organisations nationales et internationales de développement. Le président du Conseil territorial de la jeunesse des Congolos regrette le fait que les ONG considèrent souvent la main-d'œuvre locale comme n'étant pas expérimentée. Mwanalenge Wakabambi.
Les responsables des ONG ont présenté devant nous que à Congolo, il n'y a pas les gens qui ont étudié, nous sommes des incompétents. C'est à partir de ce moment qu'on a trouvé que non, ils sont seulement venus ici pour nous exploiter et nous injurier. C'est à ce moment que j'ai réuni le comité et on a pris cette décision pour écrire aux responsables de l'OTIA. Et notre objectif, c'est de retourner d'abord tous les importés qui sont venus ici chez nous.
Aucune réaction pour l'instant du côté des ONG à Kalemi. Kalemi, Polemunanga, Radio Okapi.
On enchaîne avec le Kasaï oriental où le gouverneur de province a révoqué ce week-end le ministre provincial des mines. Les griefs mis à sa charge n'ont pas été divulgués, mais certains observateurs lient cette décision de l'autorité provinciale à la sortie de près de 15 tonnes de cuivre pour la vente à Lubumbashi selon un document qui circule sur les réseaux sociaux. Mbujimayi, Esther Ndalafina.
Maître Edouard Mukendi, ministre provincial des mines a été révoqué ce week-end par le gouverneur de province Patrick Mathias Kabeya. L'arrêté provincial portant la décision du réaménagement interne du gouvernement provincial sur lequel figure le nom de son remplaçant a été lu par l'attaché de presse du gouverneur de province. Cependant, aucun motif de cette révocation n'est communiqué à la presse. Cette situation laisse place aux supputations. Certaines indiscrétions lient cette décision par le fait d'avoir autorisé sans qualité la sortie de la province de près de 15 tonnes de cuivre pour la vente à Lubumbashi selon un document qui circule depuis la semaine dernière sur les réseaux sociaux dont le ministre révoqué serait signataire. Contacté, le ministre de Mines révoqué s'est réservé de tout commentaire. Rappelons que des sources proches des services de sécurité indiquent qu'un véhicule transportant 15 tonnes de cuivre en provenance de Kabeya-Kamwanga a été intercepté la semaine dernière à l'entrée de la ville, puis conduit à l'Agence nationale des renseignements. Le ministre dépêché pour statuer sur ce dossier n'a pas su se tirer dans l'affaire. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi ce soir. En Ituri, 37 salles de classe, tous les pupitres et les documents scolaires d'une école ont été calcinés au centre commercial de Niania, situé à environ 300 km de la ville de Bounia, dans les territoires de Mambasa. C'est suite à un incendie criminel survenu hier dimanche après-midi. Des témoins affirment que plus de 25 maisons ont également été incendiées. Conséquence, selon les chefs d'établissement contactés, plus de 1000 élèves n'ont pas étudié aujourd'hui. À Bounia, c'est la correspondance d'Ezekiel Mouzalia.
Cet incendie a été provoqué par un enfant du milieu qui a déposé une bouteille remplie d'essence au bureau de l'école construite en planche et y a mis du feu, affirme le porte-parole du complexe scolaire Mwangaza ya Mambasa. Le feu a embrasé tous les bâtiments de l'école construite en planche et composé de 37 salles. Tous les biens, plus de 340 pupitres, des tableaux, des livres et autres documents ont été réduits en cendres. Le feu s'est étendu pour consumer 25 maisons de particuliers et tous les biens qui étaient à l'intérieur. L'enfant, pour l'instant, est porté disparu et le mobile de son action n'est pas encore connu. Le porte-parole de cette école sinistrée lance un appel au gouvernement et aux personnes de bonne volonté pour la construction de cette école qui compte plus de 1000 élèves qui ne vont plus à l'école. Alex Matoto.
On doit commencer les travaux de construction à zéro. Nous avons 642 élèves au secondaire et 446 élèves à l'école primaire. Vous voyez, c'est l'avenir de nos enfants qui est mis vraiment en péril. Les faits à consommer l'école du début jusqu'à la fin, le dégât est vraiment énorme.
Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En République centrafricaine, trois membres d'un groupe armé ont été condamnés ce lundi à des peines allant de 20 ans de prison à la perpétuité pour crimes contre l'humanité dans un premier verdict de la Cour pénale spéciale, un tribunal hybride de magistrats locaux et internationaux. Ils sont accusés du massacre survenu en 2021 contre 24 civils dans des villages situés au nord-ouest du pays. Poursuite au Tchad de la mission de paix qui a été dépêché à l'intérieur du pays par le gouvernement central après les violences qui ont coûté la vie à 50 personnes et des centaines de blessés le 20 octobre dernier. Cette mission gouvernementale quitte ce soir Moundou après 72 heures passées sous les lieux.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur intérimaire du Musée royal de l'Afrique centrale, Karel Vell, a parlé du processus de restitution des œuvres d'art de la RDC qui avaient été acquises illégalement par la Belgique pendant la période coloniale. Ces objets d'art sont encore actuellement au Musée royal de Tervuren. Il s'entretient à Bruxelles avec Cynthia Bachi Zinabizana.
Karel Vell, bonjour.
Bonjour Cynthia.
Actuellement, le musée s'inscrit vraiment dans une vision un peu plus moderne, contemporaine et décolonisée de l'Afrique. Ça veut dire quoi?
Effectivement, le musée veut être décolonisé et se décolonise systématiquement en travaillant plus régulièrement avec les gens de la diaspora, avec les associations afro-belges et africaines. Enfin, c'est une priorité en tout cas pour l'avenir de valoriser un peu mieux les œuvres des artistes africains et surtout aussi, ce qui n'a pas été le cas les dernières années, valoriser le travail des chercheurs africains. Belgique.
Alors, les deux pays, ça veut dire la Belgique et la RDC, sont engagés pour le moment dans un processus de restitution de certains biens culturels qui sont logés dans ce musée. Comment se positionne votre institution par rapport à tout ce processus?
Ah ben, on collabore au maximum évidemment avec le gouvernement fédéral qui a pris une décision pour effectivement créer un cadre réglementaire et un cadre légal pour faire sortir un certain nombre de biens qui appartiennent maintenant encore au patrimoine de l'État fédéral qui ont été acquéris à l'époque dans un contexte de violence, donc des pièces volées. On peut pas garder évidemment des choses qui ont été volées, donc ça c'est un principe important. Donc c'est une étape très importante aussi dans le cadre de la communication avec la RDDC. Donc maintenant on attend du côté congolais un décret qui va passer probablement encore cette année-ci. Et c'est sur base de ce cadre légal qu'un traité va être négocié, un traité qui doit être validé aussi par les deux parlements. Donc, une des choses qui est prévue par la loi, c'est qu'on peut créer donc une commission mixte d'experts scientifiques. Donc, le but ou l'idée, c'est de faire restituer ou d'organiser des restitutions d'un certain nombre d'objets après une validation ou après une analyse. Et de ces scientifiques.
Vous n'avez pas peur que le musée soit dépouillé une fois que ces 85 000 objets vont être restitués?
Non, tout d'abord, si tout va bien et si le décret est passé donc au Congo et si le traité est négocié l'année prochaine, la restitution des premiers objets aura lieu peut-être fin 24, début 25. Tout d'abord, donc ça va pas si vite que ça. Deuxièmement, il y a une différence entre il faut quand même scinder la restitution juridique et la restitution physique. C'est pas parce que un objet X ou Y est sorti du domaine public fédéral que le lendemain l'objet est envoyé ou transféré donc à Kinshasa. Tout dépendra évidemment des besoins des uns des autres, mais ce qui est important politiquement et juridiquement, c'est que les objets soient juridiquement transférés au domaine public et au patrimoine culturel du Congo.
Pour mieux vous résumer, ça veut dire que juridiquement, une fois que l'objet sera comme une propriété de la RDC, l'objet peut toujours continuer d'être logé ici au musée de Tervuren.
Uniquement si les Congolais sont d'accord avec ça. C'est leur demande, c'est leur décision, bien entendu.
Mais vous, qu'est-ce que vous voulez, vous, en tant que directeur du musée de Tervuren?
Ah, moi je plaiderais évidemment pour un retour physique parce que moi je suis pas spécialiste dans la matière, mais il est clair que pour certaines communautés, pour certaines régions, pour les habitants du Congo, la restitution ou le transfert physique de certains objets, je parle pas de tous les objets, mais de certains objets qui ont une valeur symbolique, une valeur religieuse, historique, religieuse, etc. Il est clair que donc une numérisation, une mise à la disposition à distance est une première étape, mais la deuxième étape effectivement c'est la restitution physique. Mais il s'agit d'une minorité. Il faut pas penser qu'il y aura des milliers d'objets qui vont retourner au Congo.
Merci beaucoup.
De rien.
C'était l'invité de Radio Okapi, le directeur intérimaire du Musée Royal de l'Afrique centrale, Karel Vele, était interviewé à Bruxelles par Cynthia Bachizina Bizana, et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté.